Bonjour, vous êtes sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Aujourd'hui, je vais vous parler théâtre, cinéma, musique. Alors théâtre, ce sera dans quelques instants avec la double inconstant. Cinéma, ce sera avec un formidable festival, le festival Atmosphère. Et musique, ce sera musique électro avec Cassius au Grand Rex. Tout d'abord, je vais recevoir Jean-Paul Tribou, le metteur en scène de la double inconstance au Lucernaire à Paris. On écoute un extrait de la pièce, vous allez voir, c'est dynamique.
C'est votre souverain qui vous aime.
Qui est-ce qui lui a dit de me choisir? Il m'aime, craque, il m'enlève, sans me demander si je le trouverai bon.
Qu'est-ce qu'Arlequin, hein, au prix d'un prince plein d'égards.
Ne songeons qu'à détruire l'amour de Sylvia pour Arlequin.
Tu te plains donc bien de moi, Arlequin?
Que voulez-vous, monseigneur? J'ai une fille qui m'aime, vous, vous en avez plein votre maison et cependant vous m'ôtez la mienne.
Je viens recevoir tes ordres.
Sylvia, t'aimer, tu l'épouseras. Et cela te fera ta fortune.
As-tu encore des scrupules?
En ce cas, voilà ma conscience en repos.
Sur la liste des mauvais tours que je veux jouer à leur amour, c'est ce tour-là que j'ai mis à la tête.
Si j'avais eu à changer Arlequin contre un autre, c'eût été contre un officier du palais qui m'a vu 5 ou 6 fois et qui est d'aussi bonne façon qu'on puisse être.
Il en est devenu amoureux et souhaiterait en être aimé à son tour.
Son tour ne peut pas venir, c'est moi qu'elle aime.
Vous n'allez pas au fait, écoutez jusqu'au bout.
Mais le voilà, le bout. Est-ce qu'on veut me chicaner, mon bon droit?
Arlequin est venu le premier. Voilà tout ce qui vous nuit. Si j'avais su que vous viendriez ensuite, en bonne foi, je vous aurais attendu.
J'espère que tout se fera à l'amiable.
Vous paraissez mal assortis ensemble.
Pauvre fille, il est fâcheux que j'aime Sylvia. Sans cela, je vous donnerais de bon cœur la ressemblance de votre amant.
Vous me troublez. Il faut que je vous quitte.
Il me semble que les choses commencent à prendre fin.
Voilà, on vient d'entendre l'extrait de la double inconstance. On va parler avec vous, Jean-Paul Tribou. Bonjour.
Bonjour Agnès.
Voilà, vous êtes acteur, metteur en scène, figure du théâtre. Alors, la double inconstance Marivaux, c'est au Lucernaire jusqu'au 3 novembre. C'est une double inconstance maligne, dynamique, réjouissante. Alors Jean-Paul Tribou, vous êtes un fin connaisseur de l'œuvre de Marivaux et vous nous démontrez habilement que derrière le marivaudage, eh bien, se cache une critique de la société et des hommes qui la font. Alors j'ai une question, Jean-Paul. Outre le marivaudage que vous nous montrez à merveille, est-ce que vous avez voulu insister sur le côté calculateur du couple? Alors vous nous rappellerez les couples, mais moi je pense au couple Le Prince Flaminia.
Oui, bien évidemment, la double inconstance peut être montée de différentes manières, mais ça c'est le propre de tous les classiques, ça dépend quel est l'éclairage qu'on veut braquer, quel projecteur on veut mettre, un projecteur social, un projecteur freudien, un projecteur... Moi, il m'a semblé que cette pastorale, puisqu'au départ c'est une pastorale, un prince rencontre une bergère, il l'enlève, etc., j'ai voulu tirer ça plutôt vers les liaisons dangereuses. Et c'est un couple, le couple Flaminia, le prince que vous venez de citer, se rapproche pour moi beaucoup du couple Valmont-Merteuil, des liaisons dangereuses que tout le monde connaît, enfin que beaucoup connaissent en tout cas. Voilà. Il y a, c'est certain, la volonté de montrer dans ma mise en scène avec mes camarades un rapport de classe aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit pour moi d'une expérience. On enlève un couple de petits paysans, c'est-à-dire la petite Sylvia, puis ensuite son amoureux Arlequin, on les transporte à la cour, donc on les change de milieu, et on voit comment ils évoluent, d'où un rapport regardant-regardé, comme ça, un petit peu comme le professeur Laborie avec des rats blancs dans un laboratoire, si vous voulez. Évidemment, ça dénonce aussi le pouvoir des puissants sur le peuple, voilà.
Oui, parce que vous choisissez deux couples très bien assortis, hein, donc Sylvia Harlequin d'un côté, qui rejette le luxe, Flaminia, le prince d'un autre côté. Donc le spectateur peut se demander s'ils vont vraiment se séparer.
C'est vrai que ça, il me semble que Marivaux est un fin connaisseur de l'âme humaine et en particulier des rapports sentimentaux. Harlequin et Sylvia, au premier acte, se jurent un amour éternel. Dans 100 ans d'ici, nous serons toujours le même, personne ne peut t'aimer autant que moi, etc., etc. Deux actes après, ils sont chacun dans le lit d'un autre ou d'une autre, en disant, Sylvia dit, c'est un amour qui était venu sans que je l'ai voulu, il est parti de la même manière. Il y en a un autre qui est arrivé, voilà. Donc c'est quelque part la vie, un regard sur la vie et un regard assez lucide. Combien de couples qui se sont réellement aimés, sincèrement aimés, pensaient vraiment que amour rimait avec toujours, sont quelques mois, quelques années, quelques décennies après séparés et sont victimes, j'allais dire, de ces aléas sentimentaux que nous subissons tous dans la vie. Et puis il y a évidemment quand même ce rapport social. On est évidemment assez longtemps avant la Révolution française, mais ce sont quand même, c'est la période des Lumières, hein, c'est le siècle des Lumières, c'est-à-dire que c'est un siècle où on préfère les preuves aux croyances. Ça remet en cause, bien évidemment, la monarchie de droit divin, la religion, etc. Et pour avoir des preuves, il faut faire des expériences. Marivaux, dans une autre pièce qui s'appelle La Dispute, par exemple, fait enlever des enfants, un petit garçon, une petite fille, très jeune, les élèves loin du monde, et lorsqu'ils sont adolescents, les lâchent dans la nature pour voir comment ils réagissent et qui, de l'homme ou de la femme, va tromper en premier. C'est-à-dire qu'il y a un désir d'expérimentation à cette période des Lumières, et il me semble que l'esprit des Lumières est quelque chose qui, en ce moment, nous est particulièrement utile.
Oui, alors dans votre version, Jean-Paul Tribout, de cette double inconstance, on retrouve la langue de Marivaux dans toute son acuité, son humour. Vous n'avez pas gardé l'intégralité du texte.
Pas tout à fait. Mais très peu de choses. Il n'y a pas un mot qui ne soit pas de Marivaux, par exemple. Hein. Il y a eu quelques coupures pour des problèmes de durée de spectacle ou de scènes qui n'avaient plus pour nous l'acuité qu'elle pouvait avoir au 18e. Par exemple, il y avait une scène concernant l'honneur et le duel qui ne faisait pas beaucoup avancer l'action et effectivement, elle a été coupée. Mais il y a peu de choses de coupées. Hein. Je veux dire que hier, à la représentation d'hier, il y avait eu une classe de terminale qui était là, donc ils avaient étudié la pièce auparavant et ils n'ont pas senti de différence avec le texte qu'ils avaient lu. Alors, en même temps, là, on est en train de parler de choses très sérieuses, mais je crois qu'il faut préciser pour les auditeurs que c'est une comédie. Hein. On rit souvent, on s'amuse, on sourit. Alors, c'est pas... on ne se tape pas sur les cuisses, c'est pas un one-man show, mais il y a, de la part des spectateurs, des réactions de sourire perpétuel et souvent d'éclats de rire même devant. Mais c'est écrit comme ça par Marivaux. Hein. Harlequin est un personnage comique. Il est issu du théâtre italien. Il est amusant, il est touchant par moments, mais il est aussi amusant. Donc ma référence à ça a été aussi un petit peu la comédie américaine, Capra, Lou Beach, vous voyez, on essaye de parler légèrement de choses sérieuses et sérieusement de choses légères, voilà.
Oui, le casting est formidable. Harlequin est loin d'être un Benet, hein. Il a beaucoup d'humour, un peu avec ses guenilles, il a barbu, ses bottes blanches. Voilà, comment il est votre Harlequin ?
Ah bah écoutez, il est formidable. C'est le troisième spectacle que je fais avec Thomas Sagols. Il y a quelques années, j'avais monté déjà un texte du 18e qui était Le mariage de Figaro. À l'époque, il jouait chez Rubin. Voilà, il doit y avoir une dizaine d'années. On a joué ensemble un Feydeau. Et vous avez tout à fait raison. Arlequin est l'héritier un peu de Scapin. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est pauvre et qui n'a que sa tête pour s'en sortir. Donc, il joue parfois le béné, mais il joue le béné pour en définitive prendre le pas sur celui qui se croit malin. Le personnage que je joue, qui est un personnage secondaire de Trévelin, pense qu'il va berner Arlequin et il est sans arrêt berné par lui. C'est un arroseur arrosé parce que Arlequin a le bon sens populaire, voilà.
Oui, quant à Sylvia, elle n'est pas si fragile finalement.
Oh, ouais. Non. Il faut dire que j'ai là une interprète exceptionnelle. Elle s'appelle Emma Gamet. Elle a une capacité d'appropriation du texte de Marivaux. Parce que, c'est, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est un texte très écrit, avec en plus des formules qui parfois nous sont un peu étrangères. Elle a su, mais comme tous d'ailleurs, ils ont su s'approprier ce texte. On a parfois été obligé pendant le travail de faire un peu d'explication de texte parce que, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que ça veut dire. Mais je pense que maintenant, pour les spectateurs, comme pour les comédiens, mais pour les spectateurs, on comprend tout sans aucun effort.
Oui, alors on a une Lisette aussi assez tonitruante, hein, cheveux courts, la mouche, les petits rubans autour du cou, costume rose et blanc à fleurs. Qui est vraiment, je trouve, voilà, très, enfin, formidable de drôlerie.
Oui, mais oui, elle est le pendant comique de Flaminia, c'est censé être sa jeune sœur, mais elle n'a pas l'intelligence perverse de Flaminia. Elle se croit maligne, mais malheureusement, elle ne l'est pas tellement. Et en définitive, comme on dirait actuellement, elle se prend des râteaux perpétuels. Voilà.
Oui, alors là, parlons un peu de la mise en scène, Jean-Paul Tribou. Le décor hein, d'Amélie Tribou, formidable, un peu désuet, mais très pur, net, hein.
Ben oui, oui, comme on avait des costumes extrêmement, j'allais dire chargés, en tout cas assumant un 18e qui n'est pas totalement réaliste, les costumes en font trop, comme on dirait. Donc on a voulu avoir un décor qui d'abord avait une fonction pratique, c'était de pouvoir, grâce aux glaces sans teint, montrer de temps en temps la cour regardant l'action, et puis on voulait avoir un décor très neutre, parce que s'il y avait eu de la couleur en plus sur le décor, je pense qu'on aurait eu mal aux yeux au bout d'un certain temps entre les costumes et le décor. Donc Amélie Tribou, qui a fait le décor et qui est ma fille, pour ne rien vous cacher, et qui est peintre, a choisi l'agrandissement d'une gravure, voilà. C'est-à-dire que c'est une gravure agrandie, donc on est entièrement en noir et blanc. Je dirais que c'est un décor crayonné, je ne sais pas si on peut dire ça, voilà, qui a à la fois une fonction pratique et qui met en valeur le reste du spectacle et puis qui continue sur le sol par un grand tapis semi-circulaire qui représente une sorte d'arène. C'est-à-dire que c'est pas, on est dans quelque chose qui est rond comme une arène pour qu'il y ait là le combat ou en tout cas l'expérimentation un peu laboratoire de la chose.
Ouais, les costumes d'Aurore Popineau sont très créatifs, hein, acidulés, enfin à fleurs, avec même des touches de tapisserie murale.
Oui, tout à fait. C'est une costumière avec qui j'ai déjà travaillé souvent, qui est très très talentueuse, me semble-t-il, à qui il faut faire une grande confiance, parce que vous savez, il y a des costumiers, des costumières, ils vous font d'abord des maquettes, on discute, etc. Elle non, elle part avec sa propre création et évidemment, on travaille beaucoup ensemble en amont sur l'esprit du spectacle, sur qu'est-ce qu'on veut raconter, comment le raconter, à qui on le raconte, etc. Et après, quand les costumes sortent, vous parliez du costume de Lisette, par exemple, je le trouve exceptionnel parce que il raconte le personnage. Il n'est pas là seulement pour la rendre jolie. Il raconte des choses dans ce qu'il peut y avoir d'un peu trop excessif, dans la volonté de séduire, la mise en comment dirais-je, la mise des formes du personnage. Comment séduit-on, avec quoi au 18e, effectivement, les mouches, les dentelles, les rubans, etc., etc. Et ça pour chacun des personnages. Quelquefois, c'est compliqué. Le prince, par exemple, a un costume extrêmement brillant, par moments coloré, presque perroquet, mais à d'autres moments, il recouvre ce costume par un grand manteau noir, et on a là le symbole, évidemment, du double personnage qu'il est, puisque, quelque part, tout le long de la pièce, il joue un personnage qu'il n'est pas pour séduire Sylvia.
Oui, alors Jean-Paul, hein, Tribou, vous avez évidemment une carrière incroyable. Votre rôle, hein, j'en parle toujours quand je parle de vous, l'inspecteur Pujol pendant 10 ans dans la fameuse série télé Les Brigades du Tigre, et puis vous avez joué dans plus de 80 pièces, mis en scène des vingtaines de spectacles. Voilà les textes de Feydeau, Beaumarchais, Sartre, Jules Romain, Labiche, Marivaux, bien sûr. Quel auteur, finalement, prenez-vous le plus de plaisir à mettre en scène?
J'ai une grande tendresse pour le 18e siècle, c'est vrai, mais en même temps, je me suis beaucoup amusé à monter la seule comédie de Sartre, par exemple, qui s'appelait Nekrassov, ou Jules Romain dont vous parliez. Non, j'ai la chance, vous savez, vous parlez d'une carrière, c'est une carrière sur la durée, surtout, voilà, ça fait tellement longtemps que je suis dans ce métier et que j'ai la chance de travailler, de faire à peu près ce que je veux et ce que j'aime. J'ai jamais été vedette, mais j'ai une petite notoriété professionnelle comme ça, et puis c'est vrai que la télévision des années 70-80 m'a apporté une notoriété auprès du grand public, mais enfin qui est un peu oubliée maintenant, mais ce que je préfère, c'est le prochain spectacle, voilà, je ne sais pas quel il sera, mais c'est celui qui va m'exciter le plus, celui-là ne soit le dernier, on ne sait jamais, voilà, on verra bien.
En tout cas, vous c'est vrai que vous jouez souvent dans vos mises en scène, et là, on vous retrouve sur le plateau dans le rôle de Trivelin, voilà, qui essaye quand même d'influencer notre petit couple. Hein.
Oui, bien sûr, mais si vous voulez, ça c'est parce que j'aime bien me donner même des petits rôles, ça c'est pas un rôle très important, parce que j'aime bien être sur le plateau avec les copains, avec la troupe. J'ai pas envie d'être sur le banc de touche et de crier « allez-y », j'ai envie de courir sur le terrain avec eux. Voilà, si je prends une métaphore sportive, hein, on joue, et dans le sens de jouer, il y a du ludique aussi, il y a le plaisir de la troupe, vous savez, moi j'adore les comédiens, les comédiennes, ce sont des gens avec qui j'aurais passé ma vie, enfin en tout cas une grande partie de ma vie, et ce sont des gens qui sont toujours inquiets, qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font, qui ont la même angoisse pour une représentation au fin fond de la province que pour une première parisienne, qui ne sont jamais guidés uniquement par l'appât du gain, même si effectivement il faut bien gagner notre vie, mais ils sont toujours motivés par autre chose. Pour monter un spectacle comme ça, qui est un petit spectacle, hein, dans un petit théâtre, c'est des mois de travail, et deux mois de répétition quotidienne où on cherche ce qu'on veut raconter, comment le raconter, où on travaille sur chaque phrase, voire parfois sur chaque mot. Et le résultat, quand on a la chance d'avoir une distribution comme celle que j'ai là, c'est que ce spectacle est à 80% ce que je rêvais, quoi. Voilà.
Voilà.
Je dis 80% parce qu'en matière de création, personne n'est jamais totalement satisfait. Ça pourrait toujours être mieux.
Oui, en tout cas, vous faites quasiment le plein tous les soirs, la double Inconstance au Lucernaire, mis en scène par vous, Jean-Paul Tribou. On cite les comédiens,
hein, Baptiste. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein, Baptiste. Alors, c'est vous qui les citez, allez-y.
Alors, Baptiste Bordet,
qui joue le prince.
Oui. Marilyn Fontaine.
Flaminia.
Emma Gamet.
Sylvia.
Agathe Quelquejet.
Lisette.
Lou Noëry.
Alors Lisette est en alternance avec Lou Noéry. On a deux Lisettes à partir de la semaine prochaine parce que Agathe Quelquegé joue aussi un autre spectacle qu'elle avait créé. On va lui faire un petit peu de publicité au théâtre Tressaillon à Paris. Ce sont des textes de Jean Rictus qui sont mis en scène par Guy Pierre Coulot.
Ah, formidable. Thomas Sagos.
Thomas Sagos qui joue Arlequin et qui sera en alternance avec
Anthony
Audoux, voilà.
Xavier que l'on connaît bien puisque on l'a reçu plusieurs fois, Xavier Simonin.
Oui, alors Xavier Simonin, qui est plus qu'un comédien en spectacle, c'est mon collaborateur depuis des années, on travaille ensemble. Là, il joue un petit rôle, mais parce qu'il a eu un grand rôle pendant le montage du spectacle. Et lui, alors c'est pareil, on va lui faire un petit peu de pub aussi. Tous les lundis, comme on ne joue pas le lundi au Lucernaire, il joue au Théâtre La Bruyère, Théâtre Actuel La Bruyère à Paris, une adaptation formidable des Raisins de la Colère, où il est avec trois musiciens de musique country.
Ah, formidable. Voilà. Et donc vous, Jean-Paul, qui jouez le rôle de Trivelin.
De Trivelin.
Merci beaucoup. Donc je rappelle, c'est au Lucernaire jusqu'au mois de novembre.
Jusqu'au mois de novembre. La Toussaint. Voilà.
Et donc le 11 octobre, il y aura une rencontre avec l'équipe à l'issue de la présentation.
Voilà,
très bien. Merci beaucoup.
Agnès, je vous remercie, Jean-Paul. Et puis, j'espère que quelques-uns de vos auditeurs auront envie de venir découvrir cette pièce. Je crois que Marivaux, n'importe comment, est un auteur qu'on a toujours plaisir à entendre.
Très bien. Et c'est au Lucernaire, jusqu'au 3 novembre. À tout bientôt, Jean-Paul.
À tout bientôt, Agnès. Merci de votre soutien. Au revoir.
Au revoir. Où on va parler ensuite cinéma avec un formidable festival Atmosphère et on écoute de Michel Sardou Atmosphère.
Au commissariat, une république, un syndicat. Qu'il y ait un bout du tunnel, qu'il n'y en ait pas, une mère pour pleurer sur moi, ça me fait de la peine, mais je n'y pense pas. C'est de quel côté la mer, à quelle heure est l'avion, atmosphère, atmosphère, j'ai le vol du bourdon. L'idée qu'il y ait un camp du bien et du mal, une balance au tribunal, une étendue, un vertical. Yeah, yeah, yeah. Qu'il y ait des hommes assez fous pour croire tout ça, trouver du boulot pour moi, ça me fait plaisir, mais je n'y pense pas. C'est de quel côté la mer, à quelle heure est l'avion, je suis dans un en point de suspension. C'est de quel côté la mer, mon passeport est bidon. Atmosphère, atmosphère, j'ai le vol du bourdon. J'ai dans la tête des rêveries d'enfants qui planent. J'ai pas dû tirer le gros lot, je tire jamais rien sauf des bécailles. Yeah, yeah, yeah. Je déboule en ville en visant bien les poubelles. Je fais le malin devant les filles, jamais les vraies, jamais les belles. Yeah, yeah, yeah. C'est de quel côté la mer, à quelle heure est l'avion, voyage en solitaire dans le bleu d'Alagon. C'est de quel côté. Atmosphère, atmosphère, j'ai le vol du bourdon. C'est de quel côté la mer,
Oui, chers auditeurs, vous êtes donc toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous allons parler maintenant cinéma, festival, rencontre, avec Pascal Signolet. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Voilà, nous allons parler du festival Atmosphère à Courbevoie qui commence mercredi, hein, du 9 au 13 octobre. Notez bien ces dates. C'est un festival donc qui a lieu pendant 4 jours, gratuit. Bon, sauf une représentation, mais on en parlera après, et qui est dédié aux enjeux et solutions de développement durable qui est dédié à l'avenir de notre monde. Pendant 4 jours, ce sont des films, des courts-métrages, des débats, des rencontres avec des scientifiques, des physiciens autour de la question du monde de demain. C'est un festival, Pascal, intergénérationnel qui a reçu l'an dernier 20 000 visiteurs. Il est soutenu par la ville de Courbevoie et 60 partenaires. Il plante les graines pour demain, pour nous faire réagir, réfléchir, nous donner des ailes. Je le disais tout à l'heure, il y a des débats, des rencontres, mais aussi des food trucks, des happy hours. C'est extraordinaire et vous faites le plein. Alors Pascal Signolet, cette année, c'est donc le thème focus, c'est l'océan. Quels sont les événements phares de cette édition?
Alors d'abord, je voulais vous dire, vous remercier et puis vous dire que c'est un festival très festif. C'est un festival où on donne pas de leçons, mais on partage simplement des connaissances, des émotions à travers le cinéma, les arts et le spectacle, avec des ateliers, un village, comme vous l'avez dit. Donc c'est vraiment un festival joyeux, vous voyez. On considère que l'avenir n'est pas écrit et qu'on peut, chacun individuellement ou collectivement, changer le monde et changer le cours des choses. Ça, c'était le premier point. Et puis, les océans, bien sûr, parce que cette année, c'est l'année de la mer. C'est aussi le thème de la fête de la science à laquelle nous participons, un océan de savoir. Et puis, il y a cette conférence internationale des Nations Unies à Nice en juin qui nous intéresse beaucoup. Et on voulait porter le sujet des océans avant cette conférence. Donc, il y aura beaucoup de programmes, si vous voulez, films, débats, rencontres, ateliers autour de l'océan avec tous les enjeux qui sont derrière. C'est la raison pour laquelle on a voulu inviter comme marraine Claire Nouvian, qui a fondé l'association Bloom pour les océans et qui intervient beaucoup simplement pour faire respecter la loi pour éviter le chalutage industriel dans les aires marines protégées qui sont le seul espace où le poisson, la ressource halieutique, peut se régénérer. Donc on a invité Claire Nouvian et puis aussi comme parrain Swann Harlow qu'on avait remarqué dans Petit Paysan et que vous avez peut-être vu dans Anatomie d'une chute. Swann Harlow, qui est un formidable comédien et qui a fondé le collectif CUT, Cinéma Uni pour la Transition. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour son talent, mais aussi parce qu'il veut simplement donner l'exemple. Donc on aime bien cette attitude. Oui, pas donneur de leçons. Voilà.
Oui. Formidable, formidable. Il y a tellement de rendez-vous. Je regardais 25 films, 11 rencontres, 5 ateliers, des forums. Alors, oui. Parlez-nous un peu de Deep Rising, justement, le film est en ouverture de cérémonie documentaire sur les eaux profondes. Oui. Jeudi, hein, donc là ce sera jeudi à 20h30, Deep Rising.
L'ouverture officielle du festival c'est jeudi 10 en soirée avec nos parrains et marraines et beaucoup d'invités avec ce grand film Deep Rising qui traite de l'exploitation possible des grands fonds des océans pour en recueillir les métaux précieux à grande échelle. Et on voulait mettre l'accent là-dessus parce que, on sait que les grands fonds des océans, c'est là d'où on vient, c'est là où est née la vie. Et il nous apparaît très dangereux, si vous voulez, d'exploiter à grande échelle avec des bulldozers géants, avec des tunneliers, d'exploiter ces grands fonds, les détruire et détruire toute la vie qui va avec. C'est pour ça qu'on a démarré par ce film absolument magnifique.
Et qui dénonce l'hypocrisie des milieux économiques.
Oui, bah en fait, si vous voulez, ce sont les mêmes industries américaines, notamment du pétrole, de l'extraction et même de l'armement, qui se sont groupées avec des fonds très conséquents pour commencer à exploiter ces grands fonds, parce que dans les 30 prochaines années, il est prévu qu'on extrait des ressources autant que depuis 150 ans. Donc c'est absolument hallucinant, et paradoxalement, la transition énergétique a besoin de ces métaux précieux qu'on utilise partout, dans nos téléphones, dans les éoliennes, dans les batteries de voitures surtout. Mais il y a d'autres solutions, et c'est ça qu'on veut mettre en avant.
Ouais, non, mais c'est incroyable quand on voit comment on change de téléphone, d'ordinateur, ouais. Voilà, tout ça évidemment.
Ouais. Et donc voilà, donc on a 25 films pour tous les publics, c'est-à-dire qu'on peut venir comme dans un grand festival de cinéma, et 18 films en avant-première en présence des équipes. Donc on aura des grands films. Le dernier film de Jean-Claude Vanier avec Yannick Noah notamment, des films sur les animaux, des films d'aventure, des films un peu plus sérieux, voilà, avec beaucoup de fiction et puis quelques documentaires, et on pourra rencontrer les équipes, discuter, et puis aussi tous nos scientifiques qui seront là pour les débats et qui nous feront cette année des choses un peu exceptionnelles. On mélangera l'humour et la science avec notamment Guillaume Meurice, des groupes d'improvisation, de la musique, et on mélangera tout ça sur le thème, alors là, du hasard. Voilà. Mm-hmm. Pour dire simplement que le hasard n'existe pas. On peut vraiment changer les choses, et rien n'est écrit à l'avance. Voilà. Ouais. Donc c'est finalement une source d'espoir, voilà, parce qu'on sait qu'on peut changer les choses.
Oui. Alors samedi 12 à 14h30, moi j'irai certainement. C'est toujours à Courbevoie, hein, bien sûr. Alors centre événementiel, il y a plusieurs salles, mais ça, les auditeurs, vous pouvez regarder sur le site. Il y a en gros 3 ou 4 lieux. Voilà, donc regardez bien dans quelle salle. Moi, j'ai repéré le samedi 12 à 14h30. Alors, c'est une conférence, une rencontre. Comment garder l'esprit libre? Voilà, comment ne pas être influencé justement par les médias? Comment les médias agissent-ils sur nos imaginaires? Donc, voilà. Cette conférence, Pascal, il y aura plusieurs intervenants?
Oui, il y a 3 intervenants qui sont connus pour leur position et leurs travaux sur l'indépendance de la presse, sur la guerre de l'information, sur l'influence des réseaux sociaux. Et ce sera vraiment très, très intéressant de rentrer vraiment dans les dessous de l'information. Voilà, pour une information libre et indépendante, mais aussi, on parlera aussi des guerres d'influence internationales stratégiques pour influencer les opinions.
Oui. Et alors j'ai repéré aussi, alors ça c'est le ciné-concert, le ciné-concert L'éternel silence, oui. Qui sera donc suivi d'un débat avec un glaciologue, c'est ça. C'est sur une expédition au pôle sud, la fameuse expédition de 1910, c'est ça le ciné-film.
Oui, alors ça c'est ça fait partie des spectacles qu'on présente sur l'océan. Ça se passe, c'est une des premières expéditions en Antarctique, c'est un film muet avec des musiciens qui l'accompagneront, et ensuite il y aura un débat avec la glaciologue Lydie Lescarmontier qui va vraiment nous donner toute la situation de l'Antarctique, nous expliquer le rôle de l'océan par rapport au climat. Ça sera effectivement très intéressant. Mais on a aussi un spectacle pour enfants le samedi après-midi. Et puis on a le samedi soir, après toute la partie océan avec Claire Nouvian qui se passera dans l'après-midi, on aura un grand spectacle qui s'appelle Yé, qui est un spectacle de Circus Baobab qui dure 1 heure et qui est accessible à tous à partir de 5 ans et qui parlera de l'eau. Voilà, c'est un spectacle où il y a des acrobaties absolument incroyables. Donc je vous invite à vous y rendre. Alors c'est la seule séquence qui est payante, mais pas très chère, à moitié prix, 15 et 10 euros, et gratuite pour les enfants en dessous de 10 ans. Ça va être assez formidable, c'est samedi soir à 21h.
Samedi à 21h. Donc on rappelle, festival Atmosphère à Courbevoie du 9 au 13 octobre. C'est un festival gratuit, mais il faut télécharger un pass, hein, c'est très simple.
C'est comme... Oui, c'est un pass qui donne accès à tout. Hein.
Voilà, il faut le télécharger. Vous allez sur le site Festival Atmosphère 2024, Pass Festival. Vous mettez votre compte, vous créez un petit compte et vous téléchargez le pass sur votre portable. Ensuite, les séances de cinéma et les débats sont gratuits, entrée libre. Bon, sachant qu'il peut y avoir du monde, hein, Pascal.
Oui, il peut y avoir du monde. Il y aura du monde, d'ailleurs, on le sait, hein, parce qu'on a déjà des inscriptions sur certaines séquences. On sait qu'il va y avoir beaucoup de monde. Mais il y a toujours de la place parce qu'on a des salles qui sont, merci la mairie de Courbevoie, qui sont très très, qui ont des très grandes capacités. Voilà. Et puis il y a aussi le village où on a installé un manège où les enfants peuvent s'amuser, faire des ateliers. Il y aura de la musique aussi, donc il y a de quoi se divertir et en même temps partager des connaissances et puis des discussions, rencontrer des amis. C'est un festival qui est très convivial. Il n'y a pas de, vous voyez, c'est très très libre en fait.
Oui. Pour les ateliers enfants, il faut s'inscrire à l'avance.
Alors il y en a quelques-uns, il faut regarder sur le programme. J'ai pas le détail en tête, mais il y a quand même pas mal de choses. Et puis il y a aussi des grands films d'animation pour enfants qui sont des avant-premières. Donc il y a beaucoup de choses pour les familles en fait et pour les enfants.
Très bien. Donc il faut télécharger le pass et vous venez sur place tout simplement du 9 au 13 octobre. Donc à Courbevoie, Festival Atmosphère se tient sur trois lieux. Je vous le disais tout à l'heure, l'espace Carpeau, le centre événementiel, c'est juste à côté, c'est collé, hein.
Oui.
Et le cinéma à Belgance qui est dans un joli parc un petit peu plus loin. J'ai noté pour finir Pascal Signolet l'avant-première du film avec José Garcia, le Panache,
oui.
C'est ça, hein. Et ça ce sera vendredi 11 à 18h.
Il y a 18 avant-premières, hein, donc il y a beaucoup de comédies. C'est pas des films qui vont plomber l'ambiance, vous voyez.
Oui.
Il y a des films magnifiques. Il y a de tout, quoi. Il y a des films à la fois très grand public, très drôles, et puis des films un petit peu plus sérieux avec des débats derrière. On a cette chance que les équipes de films veulent bien accompagner le plus souvent les projections, donc ça c'est assez formidable. Puis on peut leur parler assez facilement, quoi.
Ouais.
Tout est accessible, y compris nos grands scientifiques adorent discuter après leurs interventions. Donc n'hésitez pas à venir.
Oui, il y aura des astrophysiciens, des cosmologistes, scientifiques, physiciens. On peut peut-être remercier donc vos parrains, vos bénévoles, vos partenaires, hein, votre président d'honneur, Pascal.
Oui. Sébastien Follin.
Oui.
Et on a une centaine de bénévoles. On en cherche encore. Hein, s'il y a des gens qui veulent que ça intéresse, ils peuvent aller sur le site pour prendre contact.
Ah, formidable.
On cherche encore des bénévoles parce que vraiment on peut pas faire d'événements comme ça sans bénévoles. C'est un événement engagé, donc en même temps vous rejoignez notre équipe et vous faites quelque chose d'utile, quoi.
Très bien, événement engagé pour notre monde de demain, parce que c'est quand même ce qui nous rassemble. Merci,
voilà.
Merci beaucoup Pascal, on vous retrouve mercredi, hein, pour le festival.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Et bien maintenant, nous allons parler musique électronique. On vient d'entendre I Love You So de Cassius. Et pour parler donc de musique électronique, et bien je reçois Tracy Books. Bonjour Tracy.
Bonjour Agnès.
Alors vous êtes connue sous le nom de DJperso.com et vous allez nous parler de votre passion pour la musique électro et le célèbre DJ Cassius. Cassius d'ailleurs passe au Grand Rex mercredi 9. Alors Tracy Books, pourquoi...
Tout d'abord, merci de m'avoir invité Agnès. À ton émission de radio, je suis vraiment ravie d'être avec toi depuis le temps.
Oui, c'est un plaisir. Oui, bon. Pourquoi les gens, première question, pourquoi les gens aiment la musique électro?
Eh bien, Agnès, les gens aiment la musique électronique pour ses nombreux sous-genres et son son unique. Elle peut susciter des émotions et améliorer le bien-être mental et physique. On parle d'ailleurs en ce moment, Agnès, de plus en plus de la façon dont le dance aide à renforcer les interactions sociales, réduire le stress et améliorer le bien-être général.
Oui, Tracy Book, c'est super la manière dont vous en parlez. Vous êtes connue sous le nom de DJperso.com, c'est ça?
Oui, c'est ça, que j'ai créé en 2001 et j'ai fait la promotion à la Miami Winter Music Conference. Il y avait David Guetta, toutes les personnes électro, où d'ailleurs j'ai rencontré la première fois Philippe Zadar, qui est partenaire à le duo Café, avec Hubert Blanc Francard.
Oui, on rappelle qu'ils sont d'ailleurs, hein, Tracy.
Voilà, alors Cassius, en fait, j'ai appris ce matin que je ne savais pas, je crois que c'était latin, en fait, un mythe, mais Cassius, ça vient de le nom de Mohamed Ali, le boxeur.
Très bien.
Vous savez ça?
Oui. Non, c'est très intéressant d'ailleurs. Oui. D'où le nom, donc, du rappeur Cassius.
Alors, Cassius, c'était l'ancien boxeur Cassius Clay, Mohamed Ali, le boxeur. Et donc, eux, ils ont repris le nom, Cassius.
Formidable. Alors, Cassius, d'ailleurs, a été sélectionné pour la cérémonie de clôture des para-olympiques. Hein.
Agnès.
Oui, j'y étais. C'était un show électro incroyable. Il faisait partie de la sélection du spectacle, de ce formidable spectacle de musique électro au Stade de France, Cassius.
Oui, parce que Cassius, en fait, Cassius, il célèbre le 25 ans de musique électro. Et il sort le single, ils ont sorti un single en juin, et ils ont sorti le nouveau album « Dreams ». Je te demande, Agnès, d'ailleurs, de l'écouter parce que c'est magnifique.
Très bien.
C'est vraiment dans la spiritualité et le psychédélique en même temps.
On écoute Dreams de Cassius et on vous reprend tout de suite, hein, Tracy. On écoute.
Merci. À tout de suite.
À tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio IDFM, toute la culture que j'aime. Nous discutons avec Tracy Books, qui nous parle de sa passion pour la musique électro, qui nous parle du rappeur, du DJ Cassius, qui passe au Grand Rex mercredi, musique électro. Tu peux nous expliquer, Tracy, explique-nous ce que c'est que la musique électro.
Avant, il y avait la musique jazz, il y avait la musique rock, classique. Donc, la musique électronique, c'était les instruments électroniques. On parle de AI en ce moment, artificielle intelligence. Donc, c'est des instruments numériques, des ordinateurs, des technologies musicales, qui, tout ça, ça offre une grande flexibilité et créativité qui peut mettre des modifications vocales et des rythmes de fond captivants. Donc voilà, c'est une nouvelle ère de musique et c'est une progression entre moi j'étais très funk et maintenant c'était le funk, Philippe Sedat a commencé dans le funk mob à Pigalle à Paris et qui il a transformé son musique funk. C'était séduit par Hubert parce qu'ils étaient rencontrés et Hubert l'a séduit Philippe de bouger de la musique funk à la musique électro house.
Très bien. Voilà. Mercredi, donc grand concert de oui. Cassius
alors,
au
c'est
Grand
pas
Rex.
Un concert, c'est le début de son tournée mondiale. Il va le départ parce qu'en fait, Philippe Sedat, malheureusement, en 2019, nous a quittés. C'était une grande ingénieure de son qui a mixé avec MC Solar, Beastie Boys, François Dunand. Et Hubert, elle n'a pas lâché la musique. Et Hubert, on l'a revu à la Technoparade il y a 3 ans, où d'ailleurs je l'ai revu avec mes enfants, c'était quelque chose de magnifique. Et là, il fait le départ de son tournée mondiale. Voilà, on lui souhaite bon courage et beaucoup de bonheur.
Merci beaucoup. Tu y seras mercredi alors pour ce départ.
Tu veux venir?
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je crois qu'il reste plus de place, hein, c'est ça. Est-ce que les auditeurs peuvent essayer quand même d'en acheter?
Oh ben oui, je pense qu'il y en a. Hein. Je n'ai même pas regardé. Mais forcément, il y a des personnes, parce que ce duo-là, ça appartient à les French Touch de la musique électronique. C'était des pionniers. Donc je pense que tout âge va venir soutenir cette grande duo de classe et donc ça va être dans le bonheur pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose de sensible et magnifique qui va se passer.
Ouais, quel est le type de public qui va assister justement à un événement comme ça de Cassius?
Justement, il y a beaucoup de jeunes que j'ai vus sur le sortie de leur nouveau album. Parce que justement, c'est des personnes très authentiques. Et moi, par exemple, mon âge, parce qu'en fait, Philippe Sedat, ça a commencé dans les années 94. Donc voilà, il faut parler des personnes qui sont dans les cinquantaines, mais aussi un très jeune âge. Et comme tu l'as mis tout à l'heure, I Love You So. C'était remixé par des DJ aujourd'hui, des jeunes DJ d'aujourd'hui. Donc, ça ne va jamais mourir, ce morceau. Et donc, je pense vraiment que ça va être une audience de tout âge.
Très bien. Merci beaucoup, Tracy Books.
Merci à toi,
merci Agnès, de nous avoir parlé de ta passion pour la musique électro. Et on a bien noté mercredi 9, Cassius au Grand Rex. Cassius et la sortie de son album Dreams. À bientôt.
Merci,
au revoir.
À très bientôt, au revoir.
IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Eh bien, pour finir l'émission, une interview de la co-directrice du Centre Beaubourg à Paris qui va nous parler d'une exposition incroyable qu'il y a en ce moment, une sélection, voilà, et c'est le prix Marcel Duchamp qui est visible au Centre Beaubourg. À tout bientôt. On écoute et moi je vous retrouve vendredi dans 15 jours.
J'ai été faire un tour à Beaubourg pour un prix tout à fait intéressant que je découvre et pourtant il existe depuis 24 ans. C'est donc au musée Beaubourg à Paris le prix Marcel Duchamp, qui est extraordinaire. Il présente en fait des artistes émergents de la scène contemporaine française, et j'ai le plaisir de recevoir la commissaire de cette exposition, donc du prix Marcel Duchamp, qui est visible du tout public, Jeanne Brun, qui va nous en parler. Et Jeanne Brun est également la directrice adjointe du musée du Centre Pompidou. Bonjour, bonjour Jeanne Brun.
Bonjour.
Alors ce prix, donc le prix Marcel Duchamp, existe depuis 2000, je crois, c'est ça. Quels sont les... Alors, ce prix, donc, vous allez nous en parler, hein, regroupe quatre artistes confirmés de la scène contemporaine. Est-ce qu'il y a une thématique ?
Alors, traditionnellement, pour le prix Marcel Duchamp, on n'a pas vraiment de thématique, puisque ce qui est important pour nous, c'est vraiment de montrer qu'on regarde et qu'on soutient la scène française, que donc on a un regard sur la diversité, la richesse des artistes très nombreux qui composent cette scène, et en particulier les plus jeunes, puisque le prix récompense chaque année un artiste ou un groupe d'artistes de moins de 50 ans. Donc on peut avoir des propositions, des projets qui sont très différents, mais c'est vrai que cette année, nous avons eu la surprise, le plaisir, que les propositions des artistes, Abdelkader Benchama, Gaël Chouan, Angela Detanico et Raphaël Lin et Noémie Goudal, aient en fait une orientation un peu, similaire, ou disons des familiarités entre leurs différents questionnements.
Il y aura un lauréat, hein, je crois que le prix va être décerné ces jours-ci.
Alors, le prix sera décerné en effet le 14 octobre, précisément. Donc, ce qui est important pour nous dans le fait d'ouvrir le prix avant de décerner le prix, c'est de montrer qu'il y a deux logiques. Il y a certes une logique de prix, et un lauréat sera désigné comme le récipiendaire du prix Marcel Duchamp. Mais en même temps, il était important pour la DIAF, il est très important pour le Centre Pompidou, de montrer aussi l'œuvre des autres artistes, et encore une fois, de montrer différentes approches importantes aujourd'hui dans l'art contemporain français.
Je me promenais un peu dans les allées de l'exposition. J'ai eu la chance de rencontrer les artistes, notamment. Je discutais avec Gaël Chouan, sur son œuvre sur la terre, les sols, mais également la mémoire de la famille, qui me parlait de l'ère du Verseau, justement. On est toujours dans l'ère du poisson, mais l'ère du Verseau qui est située aux alentours de 2100, donc moi en tout cas je ne le connaîtrais pas, peut-être vous Jeanne, mais moi non en tout cas, puisque c'est dans 75 ans. Et elle disait qu'en effet dans l'ère du Verseau, les harmonies seraient propices à, peut-être on l'espère, meilleure entente entre les humains. Donc je prends par exemple son œuvre, l'œuvre de Gaël Chouan, qui est consacrée plus à cette ère du Verseau. Jeanne Brun.
Alors, vous me posiez la question du thème et j'ai partiellement répondu, mais c'est vrai que tous les artistes cette année, on a l'impression, ont eu cette interrogation qu'on pourrait dire cosmique, un peu sur l'ordre du monde, la façon dont le monde peut être perçu aujourd'hui. Et Gaël Chouan a choisi, en effet, de travailler autour de cette notion astrologique, du passage d'une ère astrologique à une autre ère astrologique. Alors, quand on parle d'ère astrologique, il faut comprendre, en tout cas moi, mon grand plaisir, c'est de découvrir des nouvelles choses avec les artistes. Donc j'ai découvert que ces grandes aires astrologiques, l'ère du poisson, l'ère du verso, elles durent non pas un mois, une semaine, ou même 2 ou 10 ans, elles durent entre 1000 et 2000 ans. Donc ce sont vraiment des très grands temps astrologique, et on se situerait au moment de pivot entre l'ère du poisson et l'ère du verseau. Peut-être que nous connaissons l'ère du verseau en réalité, puisque certains astrologues disent qu'elle aurait commencé dès à présent. Mais l'idée qui est fondamentale dans cette œuvre de Gaël Schwann, c'est en fait de nous projeter dans un avenir possible. Nous dire, voilà, on pense qu'on est enfermé dans un présent par ailleurs un peu catastrophique, mais il va venir d'autres temps, il va venir des bouleversements qui peuvent aussi ouvrir des possibles et des éléments positifs, puisque Gaël Schwann met en avant dans son œuvre depuis plusieurs années des notions très accueillantes comme celle de la bienveillance, celle du partage, celle de l'hybridation, du métissage et en général l'idée aussi de la réparation, donc de futurs possibles qui soient aussi meilleurs.
Je rappelle, le prix Marcel Duchamp est visible jusqu'au 6 janvier au Centre Pompidou à Paris. Un mot peut-être sur les autres artistes. Jeanne Brun, il y a également l'œuvre magnifique d'Angela. Angela Detanico, qui est peut-être plus sur une sphère poétique.
Tout à fait. Alors, oui, peut-être même plus qu'un mot sur les autres œuvres, mais très rapidement, pour dire que cette année, le prix Marcel Duchamp, vous l'avez vu en visitant les espaces, présente vraiment des environnements très immersifs. Donc, on plonge dans l'univers de chacun des artistes. Je pense que chacun des artistes est très heureux parce qu'on a vraiment des environnements qui atteignent un très beau point dans leur carrière et dans leur pratique artistique. Et Angela Detanico et Raphaël Lin, en effet, qui ont un travail plutôt conceptuel, ont élaboré là tout un environnement très poétique d'équivalence entre des systèmes de lisibilité, de compréhension du monde, qu'ils soient à travers le langage, à travers l'équivalence entre le microcosme et le macrocosme, mais tout ça rendu d'une manière extrêmement fluide, souple, immersive et donc poétique.
Et quant à l'œuvre de Noémie Goudal, se situe plus, on va dire, sur ce qui concerne la paléoclimatologie.
Alors Noémie Goudal, en effet, est une artiste qui travaille d'une manière très singulière en faisant appel à cette science qu'on appelle la paléoclimatologie, donc l'étude des conditions du climat, mais des atmosphères anciennes. Et elle se sert de cette science pour montrer qu'au fond, le monde n'est pas fixe. Les paysages, par exemple, qu'on voit et qu'on imagine toujours comme des paysages statiques, sont en fait toujours pris dans un mouvement. Le monde est un flux, est un mouvement. Donc, à nouveau, on n'est pas pris dans un présent immuable, mais dans un mouvement du monde qui est inéluctable, et que par l'expérimentation, par une sorte de trucage photographique, elle rend visible et tout à fait d'ailleurs spectaculaire.
Merci beaucoup, merci Jeanne Brun. Je rappelle donc pour nos chers auditeurs le prix Marcel Duchamp, c'est au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 6 janvier. Une question, Jeanne Brun, je rappelle, vous êtes la directrice adjointe du Centre Pompidou et la commissaire du prix Marcel Duchamp. Est-ce qu'il faut se procurer un billet pour venir voir cette exposition située au quatrième étage?
Alors tout à fait, vous pouvez venir au Centre Pompidou et prendre différents types de billets. Alors je vous encourage bien sûr à aller voir en même temps nos autres expositions, hein. Alors à la fois un billet pour le musée, mais nous avons en ce moment l'exposition Surréalisme qui est une grande réussite. Nous avons l'exposition sur la BD et nous avons donc cette exposition du prix Marcel Duchamp. Donc si vous venez au Centre Pompidou, l'offre est tout à fait importante en ce moment.
Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.